La Constelación.
Bonjour, bienvenue à la Conspiration des Planches. Alors cette semaine, un autre théâtre est possible avec le Kunsten Festival. On va faire une spéciale Kunst aujourd'hui avec Nurten, Nico et Sophie. Bonjour.
Hello, hello.
Salut. Bonjour à tous.
Alors on commencera par Habituation, un drôle d'objet de Anne-Cécile Van Dalem. Et puis on poursuivra avec un autre Belge qui perce de manière assez spectaculaire en ce moment, c'est Fabrice Murgia et sa chronique d'une ville épuisée. Et puis on découvrira le nouveau smatch de Dominique Rodoft. On avait beaucoup aimé son premier smatch à l'édition précédente. Et elle récidive avec Smatch 2 ou manger les pissenlits par la racine. Tout un programme. Et puis on finira par l'initiative de Mariano Pensotti, l'Argentin, qui a installé le Kunsten Festival dans le métro botanique. Voilà, on commence avec Anne-Cécile Van Dalem et son drôle de titre Habituation.
Habituation, on lit donc le mot habituation, et si vous mettez le U entre parenthèses, vous avez habitation. Et donc voilà, Anne-Cécile Van Dalem, on la met dans la catégorie un peu comme Murgia, chez les jeunes émergents, les jeunes talents, même si elle a de la bouteille, hein, c'est une comédienne, elle a fait quelques spectacles avec Jean-François Hugeux. Et donc voilà, mais ici, ce sont deuxième spectacle autonome à elle, avec une écriture et une écriture de plateau, comme on dit. Et ma foi, ça a été créé à Namur et ça en a surpris plus d'un, tellement elle a un univers bien à elle. Ici, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, c'est aussi son dada, c'est les familles qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas tout à fait parfaites et qui déconnent un peu. Et on est vraiment dans un univers fantastique. Et ça, c'est ça qui est rare au théâtre, et moi qui m'a surpris, même si c'est pas mon truc. D'abord, ça a l'air tout à fait naturaliste. Je me souviens qu'en sortant avec un ami, on se disait, mais c'est le genre de théâtre qu'on n'ose même plus montrer aujourd'hui, c'est le rideau à l'ancienne, il y a quelques années. Donc on est dans un salon, mais tout à fait réaliste, tout à fait naturaliste, et on sent déjà qu'il y a des petites choses qui déconnent. Là, c'est une famille, donc il y a le père, la mère, l'enfant, et aussi la tante qui est dans le coin. Le père, lui, il tranche en fait du saumon fumé, il met ça en tranche, qu'il emballe, et il a une cargaison comme ça chez lui. En fait, je crois qu'il a été viré de son entreprise et il décide de faire ça en autonomie chez lui. Il a un gros frigo box dans son jardin et il met ça en tranches. Et le but du jeu, c'est de gagner un concours pour aller faire le plus de tranches de saumon le plus emballé pour aller au siège de l'entreprise faire un voyage. Et la pièce débute là-dedans. C'est tout sur fantasme de voyage. On ira ou on n'ira pas, qui fait fantasmer la petite de la maison. La mère, elle travaille dans une assurance, secrétaire dans une assurance, et la tante, elle est chauffeur de bus. Donc on est dans son microcosme, un peu comme Monsieur Tout-le-Monde, hein, la classe moyenne, mais à force de faire fantasmer ce voyage à la gamine qui traîne dans la maison, et que ce voyage finalement n'arrivera pas, alors que ces saumons sont découpés, il y a toute cette ambiance comme ça de saumons qu'on découpe et de fantasmes de voyage, qui va faire péter les câbles tout doucement à la fille, et on va voir ce décor, c'est ça qui est très impressionnant, fleurir tout doucement, venir un peu du lierre et un peu partout. Et au début, on se dit, on a rêvé, il y a quelque chose qui se passe, on a rêvé, on voit un lierre
sortir. Les yeux.
Et tout doucement, ça va devenir de plus en plus sauvage, qui va un peu... plus cette famille s'enfonce comme ça dans son immobilité, plus la fille, la gamine fait un peu vivre cette ambiance. Et on voit justement, Anne-Cécile dit, les personnages sont morts et leur environnement a pris le dessus. Et donc voilà, cette pièce raconte comment on peut être là-dedans. Ce qu'il y a, c'est que déjà les personnages sont bien croqués, hein, le gars qui coupe le saumon, le père, la mère qui est assurance, chauffeur de bus, la tante, et c'est super bien joué. Donc déjà ça, il y a Véronique Dumont qui joue la mère, il y a Alexandre Trocchi qui joue le père, et il y a Brigitte Detry qui joue la chauffeuse ou chauffeur de bus. Et dès qu'elle a son entrée, cette dame, moi c'est la je l'ai vue rarement au théâtre, mais elle est très connue au théâtre. Dès qu'elle rentre, les rires fusent, elle a une de ses dégaines, ils ont une de ses présences, chacun sur scène. Et voilà. Et c'est vraiment un voyage assez curieux dans un salon, dans une maison où tout a l'air de se passer normalement. On revient du boulot, on revient de l'école, on discute et tout. Et puis ces gens sont pris à un moment donné, les corps sont pris à un moment donné de choses qui les dépassent. Et on comprend pas très bien comment ça se fait. Et en fait, par exemple, elle fait pour fermer le rideau et elle est scotchée au rideau. Le rideau carrément l'emporte dans cette curieuse maison. Donc on est vraiment dans un univers fantastique, téléguidé par cette gamine. Et alors le théâtre, les enfants au théâtre, c'est toujours casse-gueule. Et là, c'est super bien joué. Donc voilà, c'est
en
vraiment...
alternance par deux petites filles.
Ouais,
hein.
Ouais.
Et c'est un très kunstien dans le sens où c'est très visuel, donc.
Oui, il y a cette mise en scène, cette scénographie qui sont assez impressionnantes. Et je vous le dis, au début, on se dit, putain, mais c'est quoi ? C'est un théâtre hyper classique, un salon. Voilà, l'autre, elle coupe le gâteau. Ouais, bon. Et vraiment, dans la patine, hein, on a l'impression d'avoir une ancienne cuisine, enfin une cuisine à l'ancienne. Où...
Ça dure combien de temps ?
Et ça doit durer 1h45. C'est un peu comme un film. Et voilà. Et alors, il y a une arrière, il y a l'arrière-cour, il y a le jardin à l'arrière qu'on voit où le gars met dans un box ce saumon qu'il découpe, et il y a ce vrai saumon avec l'odeur aussi, et il y a toute cette ambiance d'un théâtre réaliste, naturaliste qui se joue, et puis ça dévie, mais tout doucement, très finement, au moment où on s'y entend pas, et ça va de plus en plus, et à la fin, il y a une de ces images qui est magnifique, qui est somptueuse. Donc voilà, tout ça pour cette jeune comédienne qui écrit et qui met en scène de talent, avec ce beau casting, parce qu'elle a su en faire quelque chose. Moi, je pense à Véronique Dumont, qui moi m'avait un peu lassée dans son jeu, et là, je l'ai retrouvée en bête de scène. Et donc voilà, il y a vraiment une vraie prouesse.
Ce spectacle fait partie, je crois, d'un cycle, hein, le cycle des parenthèses, hein, puisque dans le titre, justement, Anne-Cécile Vadalem insère des parenthèses. Et c'est vraiment la vie entre parenthèses, ou qui sort justement aussi de ces parenthèses. On est un peu entre les deux, et ce jeu sur une réalité.
Elle avait fait Self-Service.
Oui.
C'était le premier volet, je pense, de cette trilogie. Et avec Jean-Benoît Hugeux, ils avaient fait Hansel et Gretel.
Oui.
C'était l'histoire d'un mariage où finalement les deux mariés se retrouvaient seuls et finissaient par jouer tous les invités.
Via des télés.
Donc il y a toujours un aspect technique très impressionnant dans son travail. Donc c'est de toute façon une artiste à suivre. Et Habituation est à voir.
C'est au Théâtre National, c'est le 20, 21, 22, 23. Donc, cette semaine, fin de semaine, au Théâtre National.
Voilà, et maintenant, on passe à une autre pièce atmosphérique Fabrice Murgia et Life Reset, chronique d'une ville épuisée.
Chronique d'une ville épuisée, chronique d'une vie épuisée également, puisqu'on assiste en fait à ce quotidien urbain, solitaire, hein, des jeunes actifs, comme on dit hein, aujourd'hui dans le langage marketing. Et voilà, c'est on suit donc le quotidien dans son appartement d'une jeune femme qui est professeure de français. Bon, ça, il faut le savoir avant d'y aller, et même à l'issue du spectacle, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais elle est seule dans sa cuisine, dans sa salle de bain, dans sa chambre, et elle est observée par l'œil de Fabrice Murgia, qui a écrit ce spectacle et qui prend un petit côté voyeur avec à la fois le déroulement des scènes sur scène, en live là, mais aussi une projection de ce qu'on voit sur scène pour, à mon avis, donner ce côté voyeur, webcam, on pourrait dire aussi, qui s'insinue avec un problème qui est soulevé ici, c'est que cette comédienne, Olivia Carrère, qui incarne ce personnage joue avec la caméra, on a l'impression. Donc, c'est être sous les yeux de tout le monde et jouer avec ça. Parce que la seule relation qu'elle vit avec quelqu'un d'autre, Olivia Carrère et le personnage donc qu'elle incarne, c'est une relation d'amour via son ordinateur, via un chat avec l'avatar de quelqu'un d'autre, un lapin, là, qu'on voit que par aussi écran interposé, puisqu'on a la projection de ce qui se passe sur l'ordinateur également. Donc vous avez bien compris, ce spectacle se joue sur scène, se joue au niveau vidéo, et c'est aussi une création sonore, parce que le spectacle est complètement muet. Enfin, à quelque chose près, mais c'est en grande partie muet, pas un mot. La solitude, évidemment, oui, parfois on se parle à soi-même, mais elle, elle préfère chanter sous sa douche. Et les seuls contacts qu'elle a peut-être aussi avec la réalité extérieure, c'est quand elle va le soir dans les karaokés chanter des chansons un peu désespérantes dont on aura un avant-goût tout à l'heure. Alors, vraiment, c'est un mal-être, un malaise urbain que nous décrit ici Fabrice Mourdja, avec une déchéance totale, avec un projet qui est prévu apparemment dès le début du spectacle, avec un aboutissement dont je ne vous en dis pas plus, mais si vous décortiquez un peu le titre « Life Reset, chronique d'une ville épuisée », vous avez la solution et vous ferez facilement le lien. Alors, ce spectacle est vraiment, à mon avis, moi c'est la première fois que je voyais un spectacle de Fabrice Mourdja, j'ai pas vu Le Chagrin des Ocres, j'ai pas vu Dieu est un DJ qui avait un petit peu déçu hein, certains, mais ici c'est vraiment quelque chose de formidable, c'est radical comme c'est tu dis, il va au bout de son propos. Il a les moyens de sa politique, hein. Il y a des moyens dans ce spectacle parce que les pièces qu'on traverse bougent, sont sur des plateaux tournants. Ces changements ne gênent en rien puisqu'elles ajoutent à la scénographie et au mouvement et à la déchéance du personnage interprété par la comédienne. Et donc, voilà, c'est vraiment...
c'est un théâtre-cinéma. Hein.
Oui, c'est
dans une esthétique de
oui,
cinéma.
Mais la vidéo, ici, soutient également le propos. Je vais dire, ce n'est pas juste esthétique. Puisqu'il y a cet aspect webcam et intrusion dans la vie intime des gens, puisqu'on va quand même dans sa salle de bain, on va quand même dans des choses où elle joue devant son miroir comme ça, hein, comme parfois on l'est peut-être, je ne sais pas. On se regarde, voilà, bref, un peu comme tout le monde, mais c'est vraiment le désespoir d'une génération. C'est un spectacle générationnel.
Oui.
Voilà. Je crois que Nurten, tu l'as vu également.
Moi, ce qui me touche, c'est que Mourdja va vraiment au bout de son idée. Il aime le cinéma, il y a cette esthétique. On a connu des pièces muettes comme ça dans les années 70, où le texte en didascalie en annonce est très fort. D'ailleurs, il s'en inspire un peu. Il dit qu'il y a beaucoup de textes. Et alors, moi, ce qui m'a fasciné et ce qui est une expérience à vivre au théâtre, c'est comment une gonzesse ou un personnage peut se lever, ouvrir un frigo, prendre une tasse de café, regarder par la fenêtre et donner quelque chose au théâtre. Donner quelque chose au spectateur. C'est tout con, hein. Mais rien que ça, ça s'appelle un rôle de composition.
Oui, il y a un travail sur le corps et sur les gestes, évidemment, puisqu'il n'y a que ça. Donc, je crois que tout est travaillé. Hein.
Et puis, une beauté qui est cette comédienne ?
Olivia Carrère.
Oui. Et donc, c'est vraiment une expérience, c'est un ovni qu'on ne verra pas souvent au théâtre, parce que c'est son univers à lui, et il va de plus en plus dans le cinéma. Et puis, comme tu le disais, Catherine, c'est un jeune à suivre, hein, c'est la coqueluche. Quoi.
Et moi qui suis parfois assez attentif à ça, c'est la musique et l'ambiance sonore qui est formidablement travaillée par Yannick Franck, qui a fait toute la bande ici. C'est une matière, c'est quasi un personnage de la pièce, avec un mélange de bruit urbain trituré et également de mélange de musique. Voilà, c'est vraiment formidable à aller voir, je le conseille. Et ça aurait mérité plus d'applaudissements que ceux que je n'ai vus. Mais peut-être que c'est comme dans le cas du Kunsten, les gens gardent leur applaudissement pour tout le long du festival.
En tout cas, ça dure une heure.
C'est à voir jusqu'au 25 mai, également au Théâtre National. Et tous les renseignements sur www.theatrenational.be.
La conspiration.
De retour dans La conspiration des planches.
Pour parler de pissenlit avec Sophie.
Oui, ou plutôt Smash 2, Push Up Daisies, ou Manger les pissenlits par la racine, le long titre de la dernière création de Dominique Rothoft. Donc ça se passait au Tanner. La première impression, je pense, qu'on a, c'est un plateau très très chargé. On a tout un décor d'arrière-cuisine ou de laboratoire avec des plantes, avec des casseroles, des microscopes, des vidéos et aussi un bout de tissu suspendu qui servira pour projeter de la vidéo. Voilà, et dans cette arrière-cuisine, on va avoir un certain nombre de personnes qui vont avoir une réflexion sur le monde, sur les hommes, sur le monde, à partir de la nature. Alors c'est très difficile à raconter parce que c'est pas du tout linéaire, c'est pas une histoire, c'est même plutôt de l'ordre de la performance que du théâtre. On a des projections de vidéos, des comédiens qui se baladent sur cette scène et qui vaquent à leurs occupations pendant que les autres parlent et font leurs réflexions à voix haute. Voilà, on est vraiment dans des réflexions philosophiques, par exemple sur la relation entre la nature et le langage. image, donc le fait de se représenter une chose avec son nom. Donc la chose n'existe pas seulement en soi, mais elle existe aussi grâce au langage, grâce à cette représentation. Voilà, donc aussi des réflexions sur les différences entre l'homme et l'arbre, la nature, par rapport à la gestion du temps et la gestion de l'espace. Bon voilà, c'est un peu difficile à raconter, mais finalement ce sont toutes des réflexions qui mènent pas vraiment à une ligne d'arrivée, qui mènent pas à quelque part de précis, mais le chemin est intéressant aussi. J'ai un peu trouvé que ça tirait en longueur à un moment où on arrive dans une espèce de débat-conférence. Donc on a les trois comédiennes qui s'installent à une table avec leur casque d'interprète et qui représentent l'un ou l'autre botaniste, scientifique, je ne sais plus très bien. Et voilà, et elles partent dans un débat ou une espèce de conversation avec un peu un étalage de connaissances dans un jargon de botaniste où l'exception fait la règle et voilà. Mais voilà, ça traite de biodiversité, du comportement et de la pensée des hommes. Et le fait de... En fait, elle nous invite peut-être à reconsidérer le point de vue humain à l'échelle de la nature. Voilà.
Il y a beaucoup d'humour aussi. Moi, c'est ce que j'ai aimé. Donc, par exemple, on parle de la forêt et il y a une plante verte filmée en gros plan. Il y a à un moment donné une vidéo assez hilarante d'un groupe d'écologistes extrémistes qui s'appelle Earth First et qu'on voit en train de quasiment faire l'amour avec la nature dans des orgasmes spectaculaires que reconstituent les comédiens sur scène.
Les attentats écologiques, ça existe, hein ? Qui lancent des petites bombes avec des graines.
On a droit aussi à la seed bomb, on nous explique comment elle est fabriquée, cette petite bombe. Il y a aussi pas mal de vidéos avec un âne. Y a
des comptines d'enfants aussi,
des
qui font bien sourire.
D'enfants.
Mais je trouve que c'est ça aussi qui était très réussi. J'ai trouvé que c'était une mise en scène très inspirée, parce qu'à côté de ce fond qui est quand même assez costaud, on a une forme très divertissante et très agréable à regarder. Mais aussi.
Elle mêle toujours l'anecdote, le léger à la réflexion philosophique. Il n'y a que comme ça que ça peut passer. Donc il y a une espèce de labo bric-à-brac comme elle avait fait dans Smash 1. Et sinon, la pilule ne passerait pas. Les gens ne sont pas là pour venir écouter une conférence. D'ailleurs, dans sa conférence, quand ils sont à trois, ils mettent leur casque et leur casque est couvert de fleurs, de plantes. Il y a tout un théâtre végétal sur scène.
Ouais. Et à la fin, ils arrivent quand même à reproduire un tsunami, une tornade, la fonte
en
des
maquette.
Glaces, tout ça avec leurs petites maquettes sur leur cuisine. Et c'est vrai que ça ajoute une petite touche d'humour qui fait qu'on ne décroche pas. Moi, je n'ai pas vraiment décroché, même si c'est vrai que parfois, c'est un peu... c'est lourd, tout ce propos sur...
Surtout que c'était la première.
La nature, oui.
Surtout que c'est la première, il faut un peu rentrer dedans et eux-mêmes s'installent. Mais moi, j'ai trouvé quand même la réflexion. Au début, on se dit... Parce qu'elle va toujours chercher des scientifiques qu'on ne connaît pas. Mais ici, il y avait la réflexion sur les fleurs vagabondes. Donc, il y a le point de vue de l'occidental. Laissons pousser la fleur où elle est et organisons-nous en conséquence. Et celui qui prend les plantes exotiques, il dit, voilà, mais une plante peut aussi détruire une autre et un terrain et les semences des hommes. Ouais. Et voilà. Et ce matin, en voyant dans la rue, si on regarde bien dans la rue, il y a des plantes qui poussent là où elles peuvent. À un moment donné, il y a aussi la crise de la biodiversité. Sur la réflexion métaphorique entre l'arbre qui est immobile et l'homme qui est nomade, et ça remet un peu les choses en perspective sans avoir l'air de vouloir les mettre et d'appuyer dessus.
Avec un côté poétique aussi dans la science, notamment il y a une vidéo d'un oiseau qui est incroyable, qui sait reproduire tous les bruits, au départ qui sait reproduire tous les bruits d'oiseaux, comme le caméléon change de couleur, sauf qu'il va se mettre à reproduire des bruits de tronçonneuses et d'alarmes de voitures, on se dit quoi,
c'est incroyable.
Et en fait c'est parce que les hommes sont venus détruire son habitat à coups de tronçonneuses et de camions, et ça devient poétique parce que le scientifique explique que cet oiseau chante sa propre ruine, et je trouvais que dans ces petites choses comme ça, qui sont juste des vidéos scientifiques, elles trouvent comme ça à chaque fois des petits moments de poésie qui sont pas mal. Alors, moi, je le recommande. Et toi, Sophie ?
Oui, tout à fait aussi. C'est une belle expérience. Si on n'avait pas encore vu Dominique Rotteau.
Ça a apporté aussi une réflexion là où on n'y attend pas, hein, comme tu disais, Catherine, sur l'écologie tout et tout.
Les pissenlits, c'est à voir jusque...
C'est à voir jusqu'à ce samedi fin mai au Théâtre Les Tanneurs.
Smash 2.
Merci. Alors, on passe à un dernier volet du Kunsten Festival pour cette semaine. C'est Mariano Pensotti qui crée « Sometimes I think I can see you » dans le métro botanique. Alors, Mariano Pensotti, on le connaît parce qu'il avait créé La Marea il y a quelques années de cela, toujours au Kunsten Festival, où il avait créé plein de choses dans la rue de Flandre avec des surtitres, donc des histoires qui se déroulaient derrière une vitrine ou à même le trottoir, et dont on percevait quelques fragments par les surtitres sur les murs de la rue de Flandre. Là, cette fois-ci, il reprend un petit peu le même principe, sauf qu'on est dans le métro botanique, sur les quais du métro botanique. Alors évidemment, le principe, l'idée, c'est d'attirer les gens qui sont là, simples voyageurs d'une journée qui prennent le métro pour aller au boulot, pour rentrer chez eux. Peut-être le problème, c'est que c'est pas assez discret. Donc moi, j'observais ces gens et je dirais qu'il y a peut-être 10% de ces gens qui ont vraiment vu qu'il se passait quelque chose d'un petit peu spécial sur le quai du métro. Ça, c'est dommage. Mais pour ceux qui le remarquent, c'est chouette parce que en fait, l'idée, c'est d'avoir quatre écrivains installés devant leur ordinateur de chaque côté du quai, qui chattent ensemble sur ce qui se passe sur le quai, donc sur nous. Par exemple, ils vont voir quelqu'un, un petit garçon qui porte un bonnet rouge, et ils vont construire une histoire à partir de ce petit garçon qui rentre de l'école.
Ils projettent ce
chat. Et alors, leur dialogue est projeté sur un écran. En hauteur, c'est peut-être juste là où le bas blesse, c'est que cet écran aurait pu être plus visible. Voilà, mais sinon l'idée est très belle et on peut juste rester et voir ce que les écrivains vont inventer à partir de ces gens qui passent, qui vont, qui viennent.
On est filmé et on est un peu délation, on imagine, oui, tu vois, lui, il vient de quitter sa maîtresse et il rentre dans l'hôtel, il cherche à aller à Zaventem, à l'aéroport.
Voilà, exactement, on peut faire les liens avec tout ce qu'on veut, mais ce qui est pas mal, c'est que c'est en effet une réflexion aussi sur les caméras qui pullulent dans la ville et qui nous filment en permanence sans qu'on en soit vraiment conscient. Et pour une fois, ces espèces de caméras humaines, puisque ce sont des écrivains qui nous observent, prennent une forme poétique. Et ça fait du bien. Voilà, donc ça ne reprend qu'à partir de vendredi prochain. Donc vendredi, samedi et dimanche prochain.
Ça se passe pendant toute la journée?
Non, ça se passe seulement pendant 2 heures, de 20h à 22h. Mais peut-être que vous le rencontrerez par hasard. En prenant le métro, c'est encore plus sympathique. Voilà, on va peut-être finir par un petit tour des choses à voir encore cette semaine.
On entre dans le dernier round.
Voilà, dans la dernière ligne droite du Kunsten Festival.
Oui, il y a encore des choses pas mal la semaine prochaine. En tout cas, cette semaine, il y a quelques dates à chaque fois. Et donc, je vous le rappelle, ce sont des spectacles en version originale dans leur langue d'origine. Et c'est toujours très intéressant. Ça revient qu'une fois par an. Alors, il y a la chorégraphe Esther Salamone, chorégraphe hongroise, qui vient avec Tales of the Bodiless. Yes? Ok, alors ça, c'est un spectacle. Elle fait toute une réflexion sur le corps et elle tente de s'extraire de son corps. On voit que les chorégraphes ont vraiment un souci avec le mouvement et leur corps. Donc, on va voir, je sais pas, une danse de l'immatériel. On va voir, peut-être des corps vont disparaître au moment où on les regarde. Ça, c'est Esther Salamone. On est dans la performance musique et c'est une world première, comme on dit, au Kai Theater. Donc, c'est une création qu'elle va nous dévoiler et elle a son petit succès dans le milieu. Autre défi, il faut une fois au moins dans sa vie vivre un spectacle longue durée, épique. C'est toute la question de l'histoire qu'on vous embarque, c'est tout un théâtre épique, il le faut vraiment le vivre. Et nous, on vous invite à voir Factory 2, c'est Christian Lupa, c'est un Polonais qui a réuni une vingtaine de personnes. C'est samedi et dimanche, samedi 17h, dimanche 15h, le spectacle dure 7h30, n'ayez pas peur, il y a des entractes et vous êtes évidemment libre de partir quand vous voulez. En tout cas, le gars et son équipe, ils sont une vingtaine, ils se sont fait un trip, ils ont imaginé ce que deviendrait Andy Warhol avec sa Factory 2, avec sa Factory, qu'est-ce que ça deviendrait aujourd'hui? Donc ça pose une question, une réflexion sur l'art, sur le groupe, sur un peu la supercherie ou pas. Et donc Warhol est recyclé à son tour, c'est ça qui va être drôle. Et c'est un spectacle qui a fait du succès, donc tenter de vivre ce drôle de spectacle de 7h30. Et dernière chorégraphie qui, elle, nous vient du Maroc. C'est une des premières chorégraphes contemporaines du Maroc, chez Bouchra Oizgen, qui fait Madame Plaza. Elle, carrément, elle a mis 3 grosses mamas marocaines, des chanteuses de cabaret du Maroc, chanteuses de cabaret un peu miteux. On les appelle les Altaï. Elle va faire de la danse contemporaine avec eux. C'est un succès, ça tourne depuis 2005. Et nous, on va découvrir un peu ce que c'est, voilà, cette semaine du Kunst.
Voilà, donc pour voir du théâtre bizarre, du théâtre différent, du théâtre peut-être qui ouvrent les yeux et les oreilles, allez faire un tour au Kunstfestival. Ça dure encore jusqu'au 28 mai.
www.kfda.be pour tout le programme de ce Kunsten et aussi demandezleprogramme.be pour le podcast de cette émission que vous retrouverez d'ici la fin de la semaine. Belle semaine à vous.
Constelación.